Le monde dans lequel nous vivons est comme une arène où combattent toutes sortes d'idées différentes et la foi chrétienne ne semble pas très bien s'en sortir. Qu'est-ce que ça produit chez vous, ce constat? Ça produit peut-être des doutes concernant la fiabilité du christianisme. Peut-être que vous êtes impressionné, intimidé, complexé en tant que chrétien face à la pensée dominante d'aujourd'hui qui rejette sans sourciller et en bombant le torse toutes sortes d'éléments qui sont pourtant fondamentaux dans notre foi chrétienne. À l'inverse, vous êtes peut-être un non-chrétien aujourd'hui et le discours puissant d'une certaine élite relayée par de nombreux médias vous conforte peut-être dans votre position. Peut-être même que ce discours alimente votre mépris à l'encontre des croyants. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes un petit peu entre deux eaux, comme on dit, un peu désorienté dans votre recherche d'un sens à la vie. Il y a tellement de discours contradictoires, tellement d'idées différentes qui combattent dans cette arène que vous ne savez pas à qui ou à quoi accorder du crédit. Quoi qu'il en soit, le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier a été écrit dans un contexte qui, en fin de compte, n'est pas très différent du nôtre. Ce texte a été écrit au 1er siècle et à cette époque-là, les chrétiens sont très minoritaires et ils subissent la pression de l'élite intellectuelle et religieuse de leur époque, notamment des responsables religieux du judaïsme, qui était la religion des Israélites à cette époque. Et ces responsables religieux sont de grands érudits, ils sont respectés, ce sont de grands intellectuels, de grands théologiens. Et cette élite religieuse et intellectuelle de l'époque rejette l'idée selon laquelle, selon laquelle Jésus serait le Messie que les Israélites attendaient. Et donc, comme vous allez le voir, l'auteur dans ce passage qu'on va lire veut inciter ses lecteurs à s'attacher à Jésus, ou peut-être à demeurer attachés à Jésus, malgré l'opposition et la pression de cette élite intellectuelle et religieuse de leur temps. Et il rapporte cet épisode, un épisode relativement connu, vous allez voir, de la vie de Jésus, il rapporte cet épisode en particulier dans le but de montrer à ses lecteurs que les responsables religieux d'Israël se trompent gravement concernant leur propre religion, puisque Jésus est en fait bel et bien le Messie qu'ils attendaient. Et Jésus a bel et bien rempli parfaitement toutes les attentes qui reposaient sur le Messie d'après les écritures sacrées des Juifs eux-mêmes, de sorte qu'il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas à se laisser intimider ou tromper par les discours sophistiqués de ceux que l'on présente ou qui se présentent comme des érudits et des spécialistes. Non, Jésus est le salut des hommes. Jésus est le salut des hommes. Et donc le message que nous adresse ce texte aujourd'hui, c'est le suivant. Ne tombe pas dans le piège d'imaginer qu'il pourrait exister quelque chose de mieux pour ta vie que Jésus. Ne tombe pas dans le piège d'imaginer qu'il pourrait exister quelque chose de mieux pour ta vie que Jésus. Et pour nous faire comprendre cela, vous allez voir, le texte va nous faire considérer successivement les qualifications de Jésus, la mission de Jésus et enfin la position de Jésus. Alors ce texte, c'est le chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Je lis ce texte. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. » De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, » leur dit Jésus. « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent très attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?»« Si, » dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit « Simon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut ? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui répondit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Nous savons qu'elle est entièrement fiable, elle est même infaillible, car tu as inspiré les auteurs de ces textes. Inspire-nous maintenant, Seigneur, au moment où nous étudions ces textes. Aide-nous, par ton esprit, à bien comprendre ce que tu veux nous dire et à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Ne tombe pas dans le piège d'imaginer qu'il pourrait exister quelque chose de mieux pour ta vie que Jésus. La première chose qu'on découvre dans le texte, la première chose que dit le texte, versets 1 à 8, c'est que Jésus mérite que tu lui accordes plus de crédit qu'à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre. Et donc ces versets 1 à 8 nous rapportent le fameux épisode de la transfiguration de Jésus, où ce qui se passe, c'est que quelques disciples, trois pour être exact, Pierre, Jacques et Jean, assistent à une sorte de consécration spectaculaire de Jésus par Dieu lui-même. Alors il y a trois choses qui caractérisent cet événement et qu'on devrait remarquer. D'abord, la gloire qui descend sur Jésus. Il ne fait aucun doute dans le texte, dans la manière dont c'est décrit, que cette gloire est d'origine divine. C'est pas toute la gloire de Dieu, c'est pas toute la gloire de Dieu, parce que les disciples ne l'auraient pas supporté, ils n'auraient pas supporté d'être en présence de toute la gloire de Dieu, mais c'est plutôt comme un aperçu de la gloire de Dieu, ou comme un teaser de la gloire de Dieu, une bande-annonce de la gloire de Dieu, qui nous dit quelque chose au sujet de Jésus. Alors cette transfiguration ne dit peut-être pas explicitement que Jésus est Dieu, bien que ce soit vrai, hein, Jésus est Dieu. Mais ce que ça dit au moins, c'est que Jésus a une relation particulière à Dieu. Il est relié à Dieu d'une manière absolument unique et particulière. Le deuxième élément significatif de cette scène qui se déroule là, c'est la présence de Moïse et d'Élie qui apparaissent là, d'après le texte, à côté de Jésus. Alors ce qu'il faut comprendre, pour comprendre la portée de ce détail, c'est que Moïse et Élie représentent à eux deux, de manière symbolique, tout l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, autrefois, à l'époque de Jésus, on avait coutume de l'appeler sous cette expression « la loi et les prophètes ». Et quand vous lisez les évangiles, des fois vous vous apercevez que Jésus lui-même, il fait référence à, dit-il, « la loi et les prophètes ». Quand Jésus dit « la loi et les prophètes », vous pourriez traduire ça « l'Ancien Testament ». Or, Moïse est celui qui a transmis la loi de Dieu au peuple d'Israël, et Élie, c'est le plus emblématique, si vous voulez, des prophètes dans l'histoire d'Israël. « La loi » et les prophètes. Et donc ces deux grands personnages apparaissent aux côtés de Jésus pour montrer quelque part qu'ils apportent leur soutien à Jésus. C'est une façon de montrer que Jésus ne vient pas en contradiction avec la loi et les prophètes, c'est-à-dire avec l'Ancien Testament, mais qu'il vient bien en conformité avec la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Comme s'il était presque le dénouement de la loi et des prophètes. Et enfin, troisième élément significatif, la voix qui se fait entendre du ciel, la voix de Dieu, bien sûr, qui déclare solennellement que Jésus est son fils c'est-à-dire son élu, son envoyé spécial, et qu'il faut l'écouter, c'est-à-dire qu'il faut se fier à lui. Tout cet épisode-là, versets 1 à 8, de la transfiguration de Jésus, a pour but de nous montrer que Jésus a reçu, sous les yeux de trois de ses disciples en tout cas, une sorte d'agrément divin, une sorte d'accréditation de Dieu, une consécration de la part de Dieu pour le travail qu'il était censé accomplir. Et là, on ne parle pas d'un petit détail, hein. On ne parle pas d'une petite anecdote dans la vie de Jésus, hein. Une petite ligne que Jésus pourrait ajouter à son CV en quelque sorte. Vous savez, des fois, pour éprouver la crédibilité d'un grand savant, qu'est-ce qu'on fait ? On va consulter son CV. On regarde ses diplômes, et puis on va comparer le CV d'un grand savant avec le CV d'un autre grand savant. On compare les diplômes, on regarde qui c'est qui a le plus de doctorats dans ce domaine. Et on va sans doute se fier un peu plus à ce que nous dit celui qui a plus de doctorats, qui est mieux diplômé, mieux formé, il a plus de crédibilité, vous voyez. Et ici aussi, en quelque sorte, le texte nous présente les qualifications de Jésus. Sauf que Jésus, lui, ses diplômes, il ne les a pas reçus de l'université Lumière Lyon 2, comme c'est mon cas. Jésus, lui, il a reçu ses diplômes de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est lui qui a donné ses diplômes à Jésus, c'est lui qui l'a accrédité. Et Jésus, il ne se balade pas avec des bouts de papier en poche, hein, c'est-à-dire ses doctorats, ses diplômes en poche, ou affichés sur le mur de son bureau, comme c'est mon cas. Mais Jésus, lui, il se balade avec la gloire de Dieu sur le visage et sur les vêtements. Et non seulement ça, mais en plus, Moïse et Élie ont rédigé la préface et la quatrième de couverture de sa thèse, en quelque sorte. Ils apportent leur soutien à Jésus, à son travail. Et non seulement ça, mais encore, on voit Dieu dans ce passage qui présente solennellement son fils au jury et qui déclare publiquement et de manière spectaculaire que Jésus a sa faveur et qu'il est parfaitement qualifié pour faire sa volonté. Il est qualifié, Jésus, on est d'accord ? Et donc, dans le monde, aujourd'hui, on a plein de gens qui prétendent être qualifiés pour parler de politique, d'économie, de société, de philosophie, de religion, d'éthique, de spiritualité, de morale, pour parler de la vie et de la mort, etc., etc. Et beaucoup de ces gens nous disent, si vous écoutez bien, même sans écouter très attentivement, vous l'entendrez, beaucoup de ces gens nous disent dans les médias que le christianisme est un conte de fées et que eux, ils ont mieux à nous proposer. Je me souviens du représentant de la libre pensée lors d'un débat organisé à l'université par les GBU, il n'y a pas très longtemps, qui a affirmé devant tout l'amphi, et avec beaucoup d'aplomb, que Jésus n'avait jamais existé. Et quand de grands intellectuels prétendus te disent ça, il y a de quoi t'inquiéter, non ? Si t'es chrétien, il y a de quoi t'inquiéter. Et voici comment répond l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qui était un des trois disciples présents lorsque Jésus a été transfiguré. Voici comment lui répond, je cite dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16 et suivant. « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu, écoutez bien les diplômes de Jésus, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons, voici ce qu'il en tire, hein, l'apôtre Pierre, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Vous voyez, la transfiguration de Jésus a laissé des traces chez Pierre, qui était là, et qui est par conséquent convaincu des qualifications de Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Jésus mérite donc que tu lui accordes plus de crédit qu'à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre. Et de ce premier point, on peut déjà tirer une application. C'est qu'on devrait se méfier de toute philosophie, de toute vision du monde, de toute religion, de toute pseudo-intelligence, et de toute théologie même qui ne reconnaît pas la suprématie de Jésus, qui n'est pas tourné vers Jésus et qui ne nous amène pas à lui. Alors bien sûr, je dis se méfier, mais bien sûr, toute réflexion, même séculière, même non chrétienne, toute philosophie, toute recherche est utile. Mais rien ni personne n'est plus fiable que celui qui a été certifié, diplômé, si vous voulez, accrédité par Dieu lui-même. Et donc, De la même façon que les responsables religieux du judaïsme à l'époque des apôtres, de la même façon que eux qui s'opposaient à Jésus s'opposaient en fait à Moïse et à Élie, c'est-à-dire à leur propre religion, en fait, c'est ce que nous fait comprendre ce texte. Eux qui s'opposent à Jésus s'opposent en fait à Moïse et à Élie, de la même façon, ceux qui s'attaquent à Jésus aujourd'hui s'attaquent en fait à Moïse et à Élie, à l'Ancien Testament, et donc à Dieu, et à tout ce que Dieu veut faire et a voulu faire pour les hommes par Jésus. Mais c'était quoi la mission de Jésus ? Ben, c'est le deuxième point en fait. La deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, versets 9 à 23, c'est que pour bien apprécier la place que Jésus doit avoir dans ta vie, il faut d'abord que tu comprennes ce qu'il est venu faire. Dans la suite du passage ici, l'auteur va comparer deux genres de foi. D'une part, la mauvaise foi des scribes, et d'autre part, la foi mauvaise des disciples. Le texte nous rapporte un certain argument qu'utilisent les scribes pour rejeter Jésus. Ils disent que Élie est censé venir avant le vrai Messie. C'est vrai, c'est conforme à une prophétie de l'Ancien Testament. En fait, elle vient tout à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, qui dit qu'effectivement, le prophète Élie doit revenir, doit réapparaître avant le Messie. Et les scribes disent, vous voyez, Élie n'est pas venu, donc Jésus ne peut pas être le Messie. Or, d'après Jésus, Élie est venu. Le prophète Élie est bien venu. Il s'agissait en réalité de Jean-Baptiste, une figure d'Élie, un genre d'Élie, si vous voulez, ce n'est pas la réincarnation d'Élie, mais il a occupé, si vous voulez, la fonction d'un Élie, du prophète Élie. Et Jésus dit que les scribes se sont rendus complices du rejet de Jean-Baptiste et ensuite de son exécution. Jésus dit que les scribes ont traité Jean-Baptiste, ou Élie, comme ils l'ont voulu. Autrement dit, ils auraient pu reconnaître Élie quand il est venu, en la personne de Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils l'ont plutôt traité comme ils l'ont voulu. Jésus est en train de souligner ici les mauvaises intentions ou la mauvaise foi des responsables religieux de cette époque, qui sont appelés ici les scribes, les grands spécialistes de la théologie d'Israël. Et il confirme cette idée juste après, lorsque Jésus fait cette remarque un peu étonnante, ça vous a peut-être étonné, d'ailleurs verset 17, quand Jésus dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» On se demande peut-être qui c'est qui fait l'objet de ce reproche quand on arrive à ce stade du texte, n'est-ce pas ? Mais dans le contexte, la chose la plus naturelle est de considérer qu'il s'agit en fait des scribes ici qui font l'objet de ce reproche. Parce que non seulement ils subordonnent l'accomplissement des prophéties à leurs propres mauvaises intentions, à leur propre mauvaise foi, d'accord ? Dieu accomplit ses prophéties, mais les scribes ne veulent rien savoir parce qu'ils sont obnubilés par leurs intentions qui sont mauvaises. Ils font preuve de mauvaise foi, d'accord ? Donc non seulement ils font ça, mais en plus dans le texte, ce qui est sous-entendu, c'est que les scribes sont en train de détourner la détresse d'un homme, la détresse de ce papa qui est tourmenté à cause de son fils qui est gravement malade, et ils utilisent sa détresse comme accusation contre Jésus et contre ses disciples. Et c'est pourquoi Jésus les appelle race incrédule et perverse. Mais c'est horrible ce que vous faites. Mais à côté de cette mauvaise foi des scribes, il y a la foi mauvaise des disciples, que Jésus décrit cette fois au verset 20 en disant à ses disciples qu'ils n'ont pas pu chasser le démon en raison de leur petite foi. De leur petite foi. Alors Jésus est gentil, hein, parce qu'il leur dit après, si vous aviez en fait de la foi, même si petite qu'un grain de moutarde, aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourrez déplacer une montagne. Qu'est-ce que Jésus sous-entend ? Il prend quand même des pincettes pour parler à ses disciples, mais ce qu'il sous-entend, c'est que la foi des disciples, elle est vraiment inadéquate, en fait. Elle est petite, mais elle est mauvaise. C'est pas la bonne foi, quoi. Donc le texte met côte à côte ces deux genres de foi qui sont tous les deux inadéquats, en fait. Tous les deux inadéquats. La mauvaise foi des scribes, la foi mauvaise des disciples. Ce qu'il faut remarquer, c'est la façon dont ce passage est encadré par des références aux souffrances à venir de Jésus et à sa résurrection. Verset 9, verset 12, verset 22 et verset 23. Et le point commun, en fait, qu'il y a entre les scribes et les disciples, c'est que ni les uns ni les autres n'ont vraiment compris ce que le Messie était censé faire. Les scribes ne voulaient pas d'un Messie qui compromettrait leur statut et leur pouvoir et leur influence en tant que responsable dans le peuple. Et les disciples, eux, ils espéraient un Messie qui serait une sorte de héros de la résistance et qui viendrait pour renverser, politiquement ou militairement, pour renverser la dictature romaine. Vous vous souvenez, on a vu ça la dernière fois. On a vu que c'était la raison pour laquelle Pierre lui-même faisait des reproches à Jésus dès que Jésus se met à parler de ses souffrances et de sa mort. Et Pierre lui dit, mais ça va pas, c'est pas du tout ça qu'on attend du Messie. Tu vas quand même pas faire ça. Vous voyez, ni les scribes, ni les disciples n'ont vraiment compris ce que le Messie est venu faire. C'est pourquoi, encore, les disciples sont, d'après le texte, très attristés au verset 23, quand Jésus parle de ses souffrances à venir et de sa mort. Et même si Jésus dit qu'il va ressusciter, c'est un petit peu ironique, un peu comique, tragicomique, ils sont tellement loin de comprendre ce que ça veut dire, ils sont quand même tristes. « Oh non, Seigneur, tu vas quand même pas mourir et ressusciter. » Ils sont déçus, en fait. Hein. Donc il y a deux types de foi, tous les deux inadéquats dans ce texte, parce que ni la mauvaise foi des scribes, ni la foi mauvaise des disciples ne comprend ce que le Messie est vraiment venu faire. Jésus, lui, il a compris ce qu'il est venu faire, et il sait ce qu'il est venu faire. Et c'est pourquoi il rappelle à ses disciples, au verset 9, qu'ils ne doivent pas se mettre à témoigner publiquement de son avènement en tant que Messie avant que sa mission soit accomplie, c'est-à-dire avant sa résurrection. Ça aussi, on l'avait vu la dernière fois. C'est par ses souffrances, sa mort et sa résurrection, en effet, que le Messie devait accomplir sa mission et entrer dans son règne. Sans souffrance, mort et résurrection, vous n'avez pas le bon Messie. Et si vous n'avez pas le bon Messie, votre foi est inadéquate. Voilà pourquoi je disais que pour bien apprécier la place que Jésus doit avoir dans ta vie, il faut d'abord que tu comprennes ce qu'il est venu faire. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu exprès pour souffrir, mourir et ressusciter, parce que c'était précisément le moyen de notre délivrance. Jésus a voulu se substituer aux croyants, en tant que Messie, il a voulu se substituer aux croyants sur la croix, où la colère de Dieu s'est abattue sur lui, s'est déversée sur lui plutôt que sur nous. Il a détourné sur lui la colère de Dieu qui nous était destinée en raison de nos péchés. Il a souffert donc, en tant que Messie, pour nous délivrer, nous son peuple, de la dette de nos péchés, pour la payer à notre place, cette dette. Mais il est aussi ressuscité pour nous, et par sa résurrection, la suprématie de Jésus a été clairement manifestée, il est entré dans son règne a été établi, il est aujourd'hui le Sauveur, donc suprême et vivant. Le Messie a bel et bien délivré son peuple, conformément aux prophéties et aux attentes de l'Ancien Testament. Il a triomphé de tous ses ennemis, il a établi son règne, un règne invincible, au profit de tous ceux qui s'attachent à lui par la foi. Mais si on ne comprend pas vraiment ce que Jésus est venu faire, on ne va pas vraiment apprécier la place qu'il est censé avoir dans notre vie. C'est un peu comme si on vous offrait un objet précieux, un objet très rare, très recherché, mais que vous ne sachiez pas à quoi il sert. Qu'est-ce que vous en feriez de cet objet ? Vous le rangeriez sans doute sur une étagère, quelque part dans le salon, ou peut-être au grenier ou au garage. Vous ne savez pas quoi en faire, c'est même un peu encombrant. Alors que cet objet, il a peut-être le potentiel de radicalement transformer votre vie quotidienne. Vous ne savez pas à quoi il sert, c'est ça le problème. Et de nos jours, on entend plein de discours sur Jésus. Plein de discours sur Jésus. Jésus le grand penseur, le pacifiste, le prophète, Jésus le révolutionnaire, Jésus le grand exemple d'amour et de tolérance, etc., etc., etc. On entend beaucoup de choses sur Jésus, mais si le Jésus dont on vous parle n'est pas le Jésus de la croix, le Messie qui se substitue à son peuple pour le délivrer de ses péchés et de la mort, alors ce n'est pas le vrai Messie dont on vous parle, ce n'est pas le vrai Jésus dont on vous parle. Comme le dit l'apôtre Paul, nous prêchons Christ crucifié. Christ est un synonyme de Messie. Nous, dit Paul, nous prêchons le Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, que Français, qu'Américains, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le vrai Christ, c'est le Christ crucifié pour l'apôtre Paul, vous voyez. Si on vous parle d'un autre Jésus que celui-là, eh bien, c'est un autre Jésus, c'est pas le vrai Jésus. C'est pas le Jésus qui peut transformer votre vie. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce passage? D'abord, Jésus mérite que tu lui accordes plus de crédit qu'à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre. Ensuite, pour bien apprécier la place que Jésus doit avoir dans ta vie, il faut d'abord que tu comprennes ce qu'il est venu faire. Et maintenant, troisièmement et dernièrement, ce que Jésus est en mesure de t'offrir dépasse de loin tes plus folles espérances. Pour finir, le texte rapporte une petite histoire où il est question d'une taxe, une taxe bien particulière, les 2 drachmes. Vous êtes gratté la tête à la lecture en vous disant « Mais de quoi il s'agit là ?» En fait, cette taxe, c'est celle que devaient payer tous les Israélites chaque année au profit du temple, pour financer le temple des Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs, depuis l'institution de ce qu'on appelle le culte lévitique, c'est ce culte au temple qui a été institué à l'époque de Moïse, depuis cette époque-là, tous les Juifs devaient payer chaque année une contribution, une cotisation, si vous voulez, qui devait servir à financer le lieu de culte. Alors au début, c'était le tabernacle, ce lieu de culte, une espèce de c'était un temple, mais un temple en toile, et ensuite c'est devenu un temple en dur, un temple en briques, en pierre, qui était situé à Jérusalem. Et à quoi servait ce lieu de culte? Et bien, c'est Dieu qui l'avait institué, ce lieu, comme emblème de sa présence au milieu de son peuple. Le culte qui se déroulait au temple attestait, d'accord, le lien qui existait entre Dieu et le peuple d'Israël. Le temple, c'était une façon pour les Israélites de s'approcher de Dieu et d'entretenir leur relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui a institué ce moyen-là et qui a dit comment il fallait le faire. Donc cette taxe annuelle finançait en quelque sorte cette grâce que Dieu avait faite à son peuple de lui permettre de s'approcher de lui. Vous suivez ? Or, que fait Jésus dans ce passage, à la fin du chapitre 17 ici? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il fait comprendre à Pierre, en discutant avec lui dans la maison, qu'en principe, ni lui, Jésus, ni ses disciples, qui sont représentés par Pierre ici, ne sont tenus de payer cette taxe. Tiens, tiens. Et pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux, au temple. Personne ne paye pour rentrer chez soi, n'est-ce pas? On paye pour le privilège d'entrer chez quelqu'un d'autre, ou pour un service que quelqu'un d'autre nous rend, n'est-ce pas? Mais on ne paye pas pour rentrer chez soi. Et le temple, c'est la maison de qui? C'est la maison de Dieu, aurait répondu n'importe quel juif. Donc ce que Jésus sous-entend ici, et écoutez bien parce que c'est franchement renversant, ce que Jésus sous-entend ici, c'est que les disciples de Jésus ont un accès auprès de Dieu aussi libre et légitime que s'ils étaient Jésus lui-même, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Les disciples de Jésus ont un accès auprès de Dieu aussi libre et légitime que s'ils étaient Jésus lui-même, c'est-à-dire comme Jésus des fils de Dieu. Ça me fait penser à Yvette. Yvette, c'est la dame qui a la petite blouse en rouge. Parce que pendant de nombreuses années, Yvette a bénéficié d'un grand privilège, comme tous les gens qui habitent en France, le privilège de pouvoir voyager confortablement en train d'une ville à l'autre, à condition de payer son billet, bien sûr. Mais il y a quelques années, Yvette a arrêté de payer ses billets de train, et elle a commencé à voyager sur tout le réseau SNCF, gratuitement ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec Gilles, cadre à la SNCF. Et par conséquent, écoutez bien, Yvette est entrée dans la famille SNCF par alliance et elle a eu part à tous les privilèges de l'homme auquel elle était attachée. Vous voyez où je veux en venir? De la même façon, ces quelques versets à la fin de ce chapitre nous disent que lorsqu'on fait confiance à Jésus, on entre dans la famille de Dieu par alliance. Et on a part à tous les privilèges du Christ auquel on est attaché. Oui, en raison de sa position, vous voyez, ce que Jésus est en mesure de t'offrir dépasse de loin tes plus folles espérances. Donc le message de tout ce chapitre que nous venons de voir, c'est bien le suivant. Ne tombe pas dans le piège d'imaginer qu'il pourrait exister quelque chose de mieux pour ta vie que Jésus. sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, j'aime bien suivre les débats qu'on peut écouter à la radio, qu'on peut regarder à la télé. Vous savez, ces débats où des personnalités différentes confrontent leurs idées, parfois de manière assez animée, assez enthousiaste, pour ne pas dire virulente. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que sur ces plateaux d'émissions de radio ou de télé, où on retrouve d'ailleurs souvent les mêmes personnalités, hein, on invite très rarement sur ces plateaux de grands intellectuels qui sont aussi des disciples de Jésus-Christ. Quand par miracle un chrétien se trouve sur le plateau, c'est généralement pour servir de défouloir au reste du panel. Et on en croirait presque qu'il n'existe pas de nos jours en Occident de grands intellectuels reconnus par le grand public qui soient en même temps un chrétien authentique. Il y a un grand magazine américain qui publie chaque année la liste des intellectuels les plus influents du monde. J'ai consulté la liste la plus récente, qui concerne donc l'année 2014, et de la première à la dixième place, on trouve dans l'ordre un athée, un musulman, un athée, un catholique non pratiquant, un athée, un juif, un athée, un juif agnostique et un athée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, que si aujourd'hui vous dites croire en Jésus, si aujourd'hui vous dites vouloir suivre Jésus, vous devenez nécessairement la cible d'une pression énorme exercée sur vous par l'élite intellectuelle ou la pseudo-élite intellectuelle du monde occidental. Comme le dit l'apôtre Paul, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alors pour conclure, le monde dans lequel nous vivons est comme une arène où combattent toutes sortes d'idées et la foi chrétienne ne semble pas très bien s'en sortir, n'est-ce pas ? Et toi, ce soir, tu en es où ? Ta foi, elle s'en sort comment dans l'arène où se confrontent toutes ces idées différentes. Jésus mérite que tu lui accordes plus de crédit qu'à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre parce qu'il a été accrédité par Dieu, contrairement à tous les autres pseudo-intellectuels ou spécialistes ou leaders dans le monde. Mais pour bien apprécier la place que Jésus doit avoir dans ta vie, il faut d'abord que tu comprennes ce qu'il est venu faire. Il est venu exprès souffrir, mourir et ressusciter pour toi. Enfin, ce que Jésus est en mesure de t'offrir dépasse de loin tes plus folles espérances, parce que si tu lui fais confiance, il te fait prendre part aux privilèges qui sont les siens en tant que fils de Dieu. Donc malgré toute la pression pseudo-intellectuelle du monde qui t'entoure, ne tombe pas dans le piège d'imaginer qu'il pourrait exister quelque chose de mieux pour ta vie que Jésus. Amen. On va prier. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné Jésus. Il est venu, il a vu et il a vaincu. Il a accompli parfaitement sa mission, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il siège à ta droite. Il nous fait prendre part à tous les privilèges qui sont les siens en tant que fils de Dieu, ton fils bien-aimé. Père céleste, merci infiniment pour le salut, l'espérance que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ. Amen.